Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de l'actualité, la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le président américain Joe Biden est sous pression. L'envoyé spécial américain en Haïti a démissionné de son poste. Il dénonce les expulsions de milliers de migrants par Washington.
Les conséquences de cette crise, 19 000 migrants sont actuellement bloqués à la frontière entre la Colombie et le Panama. Des migrants bien souvent obligés de traverser une jungle contrôlée par des groupes criminels. Nous entendrons le témoignage d'une représentante de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.
Ce journal nous emmènera aussi à Bruxelles, en Belgique. La Commission européenne souhaite imposer un modèle unique de chargeurs de téléphone. Objectif, réduire leur production et donc la pollution.
Enfin, en football, retour inquiétant des violences dans les stades en France. De nouveaux incidents ont opposé hier des supporters d'Angers et de Marseille en Ligue 1.
Le journal en français facile.
Et un nouveau coup dur pour le président américain Joe Biden. L'envoyé spécial des États-Unis en Haïti démissionne.
Oui, Daniel Fouty jette l'éponge. Le diplomate reproche à Washington sa gestion de la crise migratoire à la frontière avec le Mexique. Pour rappel, les États-Unis expulsent depuis dimanche des milliers de migrants haïtiens vers leur pays d'origine. Il y a aussi eu ces photos qui ont beaucoup choqué, des photos de gardes-frontières à cheval repoussant des migrants haïtiens. Une politique qualifiée d'inhumaine par l'envoyé spécial américain en Haïti. Sa lettre, adressée au secrétaire d'État américain, circule actuellement sur les réseaux sociaux et le ton est inédit. Marie Normand.
C'est une lettre de démission cinglante que Daniel Foote a fait parvenir à Anthony Blinken, une bombe même. L'envoyé spécial en Haïti, qui n'était en poste que depuis 2 mois, depuis la mort du président haïtien Jovenel Moïse, accuse le chef de la diplomatie américaine d'avoir ignoré ses recommandations. « Je ne serai pas associé, écrit-il, à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés et d'immigrants clandestins vers Haïti. Un pays, ajoute-t-il, où les officiels américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger posé par les gangs armés. Selon Daniel Foote, Haïti n'est pas en mesure d'absorber cette arrivée forcée de milliers de migrants qui manquent de nourriture, d'un abri et d'argent. Plus inédit encore, il condamne l'ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne. L'arrogance, écrit-il, qui nous fait croire que nous devrions désigner le vainqueur, est impressionnante. Une intervention politique internationale qui a systématiquement, selon lui, produit des résultats catastrophiques en Haïti. C'est de mémoire la première fois qu'un haut fonctionnaire américain tient de tels propos sur le dossier haïtien.
Explication signée Marie Normand et on l'apprend ce soir, Clémentine, autour de la ville de Del Rio, au Texas. La police aux frontières américaines va arrêter d'utiliser des agents à cheval.
Cette décision fait suite à la diffusion de ces images chocs dont on parlait en début de journal. On y voyait des gardes-frontières à cheval repoussant des migrants haïtiens. Ces photos ont provoqué l'émotion et l'indignation. Les autorités américaines précisent qu'il s'agit d'une suspension temporaire, c'est-à-dire une suspension qui n'est pas définitive. Et puis du côté mexicain de la frontière, dans la ville de Ciudad Acuña, une centaine de policiers ont été déployés. Les forces de l'ordre sont postées le long du fleuve Rio Grande, un fleuve traversé quotidiennement par des centaines de migrants qui tentent de s'approvisionner en nourriture et en médicaments.
Et cette crise migratoire touche aussi d'autres pays de la région.
Effectivement, 19 000 migrants sont aussi coincés à la frontière entre la Colombie et le Panama. Un chiffre donné par les autorités colombiennes. Ces migrants se trouvent dans la localité de Necoclí, dans des conditions déplorables. Ils attendent de pouvoir faire la traversée vers le Panama, mais le nombre de places dans les petites embarcations est limité. Résultat, beaucoup choisissent de passer par la jungle du Darién, une zone contrôlée par des groupes criminels. Alors qui sont ces migrants? D'où viennent-ils et dans quelles conditions traversent-ils cette jungle? Écoutez la réponse de Susana Arroyo Barrantes de la Fédération internationale de la Croix-Rouge à Las Blancas au Panama.
On trouve plus de 40 nationalités parmi ces migrants, des personnes de pays asiatiques comme le Bangladesh, le Pakistan, mais aussi d'Afrique comme l'Angola, la République centrafricaine ou le Burkina Faso. Quand ils traversent la jungle, ils se retrouvent dans des situations de grande vulnérabilité. Ils doivent traverser pendant 5 à 12 jours une jungle tropicale très humide où il fait très chaud. Et ils sont confrontés à des dangers multiples. Danger des animaux, danger de la crue soudaine des rivières, car nous sommes en hiver, et puis danger des groupes criminels qui circulent dans cette zone et qu'ils peuvent donc croiser. Beaucoup de ces migrants arrivent blessés, déshydratés. Ils ont été battus et beaucoup ont subi des agressions sexuelles.
Des propos recueillis par Aléo Chapiré.
Le journal en français facile.
En Russie, des candidats vaincus aux législatives, Clémentine, veulent faire annuler les résultats du vote.
Ils estiment que les résultats ont été volés par un système de vote en ligne corrompu. La plupart sont issus du Parti communiste. Certains de ces candidats ont même appelé à un rassemblement à Moscou samedi. Moscou où ils ont remporté 8 sièges de députés avant que ces sièges ne basculent en faveur de Russie unie. Russie unie, c'est la formation politique du président Vladimir Poutine. Les autorités russes ont d'ores et déjà déclaré la manifestation illégale en raison de la situation sanitaire. Et par ailleurs, l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny accuse Apple et Google de collaborer avec le Kremlin. Il reproche aux deux géants du numérique d'avoir supprimé son application consacrée aux législatives à la demande des autorités russes.
Et puis bientôt, Clémentine, un seul chargeur pour tous les téléphones en Europe. L'USB-C va devenir la référence unique.
Oui, la Commission européenne a proposé aujourd'hui d'imposer un type unique de chargeur pour tous les téléphones portables et pour tous les objets ayant besoin d'être chargés. Elle souhaite simplifier la tâche des utilisateurs pour tous ces objets qui ont envahi notre quotidien. La Commission veut aussi et surtout mettre un terme à cette situation qui engendre une production et donc une pollution inutile, des coûts pour les consommateurs et pour certains, un peu d'énervement. Selon ses calculs, un tiers des chargeurs n'est pas utilisé. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Il y a aujourd'hui 3 types de prises pour les chargeurs. L'USB-C, le Lightning d'Apple et le micro-USB en perte de vitesse. C'est un progrès considérable par rapport à 2009 où on comptait 30 types de chargeurs différents. 2009, car c'est l'année où la Commission européenne a lancé cette idée d'un chargeur unique. Elle a proposé le principe aux fabricants sur une base volontaire, qui a donc eu des effets notables. Mais elle veut maintenant mettre un terme à ce véritable serpent de mer, un an et demi après la dernière résolution urgente du Parlement européen. Apple avait objecté que ceci freinerait l'innovation. Cet argument a été écarté. Désormais, tous les téléphones devront comporter au moins un port USB-C. Les chargeurs eux-mêmes ne pourront plus être fournis avec les appareils. Dans la boîte, il y aura seulement le câble. Sont aussi concernés les appareils photonumériques, tablettes, écouteurs, consoles de jeux portables et enceintes connectées, soit un total de 420 millions d'appareils mobiles actuellement en Europe. La proposition devrait être facilement adoptée. Elle pourrait entrer en vigueur d'ici 2 ans. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
En football, encore une journée de Ligue 1 marquée par des incidents en tribune. Hier en France, c'était lors du match entre Angers et Marseille. Des violences entre supporters des deux camps. Christophe Diremzian.
La tendance est lourde et de plus en plus préoccupante. Au bout de 7 journées, la commission de discipline de la Ligue a déjà dû sévir 2 fois par des 8 clos. Et c'est encore cette menace qui plane après cet Angers-Marseille, pourtant sans histoire durant le match. À peine terminé, des projectiles ont volé de part et d'autre de chaque camp. Quelques dizaines de supporters marseillais s'énervent, sortent du parquage visiteur pour une bagarre sur le terrain avec des fans angevins avant l'intervention des forces de l'ordre. Ce genre de triste spectacle a déjà valu à Nice 3 matchs sans public et le retrait d'un point pour les graves débordements du 22 août à l'Allianz Riviera face à l'OM. Samedi dernier, c'est le derby du Nord, Lens-Lille, qui dégénère à la mi-temps dans les tribunes, puis sur la pelouse. Le stade Bollaert sera vide au moins pour les 2 prochaines rencontres, en attendant peut-être d'autres mesures plus fortes.
Et c'était Christophe Diremzian. Et pour rappel, ce match entre Angers et Marseille s'est conclu sur un score de 0-0. Les violences ont pu être maîtrisées, elles n'ont fait aucun blessé. Très belle soirée sur RFI.